Alors, si vous voulez me suivre, on va aller dans Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 12. Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 12. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Alors, on va demander la bénédiction du Seigneur. Notre Dieu, on s'apprête à étudier sommairement une doctrine importante dans les Saintes Écritures, Seigneur, concernant l'ennemi et les démons, si Seigneur, qui œuvrent sur la terre et dans nos vies et qui cherchent par toutes sortes de moyens à freiner notre amour pour toi et à nous empêcher, Seigneur, de te servir convenablement. Alors, Seigneur, ils ont une multitude de tactiques. Ils sont intelligents, puissants. Alors, Seigneur, on a besoin de connaître l'ennemi. On a besoin de connaître ces choses de manière à mieux les combattre. Et, Seigneur, tu nous as promis la victoire, et la victoire est assurée en autant que nous utilisions les moyens que tu as mis à notre disposition pour bien les combattre. Alors, on te demande de nous éclairer, de nous guider, que ton esprit fasse en sorte qu'on reçoive ta parole, qu'elle fasse un effet sur nos âmes aussi, et que ces choses demeurent dans notre esprit, dans notre mémoire, de manière, Seigneur, à ce qu'on sache les reconnaître lorsqu'elles se présentent dans nos vies. On te le demande par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, au cours des deux semaines, on fera probablement pas toutes les quatre idées aujourd'hui, mais on va probablement regarder les deux premières. Alors, il y a quatre choses qu'on va regarder concernant la doctrine de Satan et des démons. La première, l'origine et la chute de Satan. Autrement dit, ça a commencé quand et de quelle façon c'est arrivé, selon les Écritures. Donc, Satan et les démons. La deuxième, on va regarder la personne de Satan. Parce qu'il y en a plusieurs aujourd'hui qui disent que Satan est uniquement une influence, que c'est pas vraiment une personne. On va regarder que c'est une personne avec une intelligence et qui travaille dans un but précis dans nos vies et sur la terre. La troisième idée qu'on va regarder, c'est les activités de Satan et des démons. Autrement dit, quand ils viennent travailler dans nos vies pour nous empêcher de grandir, pour nous empêcher de servir, etc. Comment ils agissent? Quels moyens ils utilisent pour aller dans cette direction-là? Et la quatrième idée, ça va être notre relation avec Satan et les démons. Autrement dit, nous, face à Satan et aux démons, comment qu'on se doit de réagir face à tout cela? Et quels sont les moyens que Dieu nous a donnés pour les combattre? Alors, on a regardé Apocalypse 12, 7 à 12. On a vu que, quelque part, il y a eu une guerre dans le ciel qui ont été précipités sur la terre. Et ça dit qu'ils étaient dans une grande colère parce qu'ils savaient qu'il y avait peu de temps. Une chose qui est intéressante, c'est de regarder l'opinion américaine, parce que c'est peut-être qu'il y a eu des études qui ont été faites ailleurs aussi. Je ne sais pas au Canada s'il y en a eu ou en Europe. Mais je sais qu'il y en a eu aux États-Unis, ils en font assez régulièrement. Ils veulent voir le pouls de la population et le pouls des chrétiens concernant des doctrines précises. pour voir qu'est-ce que les gens croient par rapport à certaines choses qui sont pourtant très bibliques. Alors, il y avait eu une enquête nationale aux États-Unis par le groupe Barna. Alors, c'est un groupe qui fait de façon régulière des sondages auprès de la population et parfois auprès de chrétiens. Et dans ce cas-ci, c'est auprès de chrétiens qu'ils l'ont fait pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent de Satan, des démons, c'est quoi leur croyance, est-ce que c'est... Alors, c'est ça qu'on va regarder. Ils ont fait ça en janvier et en février 2008, et leur échantillonnage était de 1871 personnes qui se disaient chrétiennes. Ils n'ont pas vérifié, tu ne peux pas vérifier, même si tu voulais, de toute façon, si la personne est véritablement chrétienne. Alors, sur les personnes qui professent être chrétiens, 1871, c'est un gros échantillonnage. Alors, et ça leur a révélé le fait suivant. On vous le donne en anglais, une petite phrase courte, puis vous la traduire après. 4 out of 10 Christians, 40%, strongly agreed that Satan is not a living being, but is a symbol of evil. Qu'est-ce que ça dit? Autrement dit, si on traduit ça, 4 chrétiens sur 10, ou 40%. 40% des chrétiens, et là, il faut s'arrêter et y penser, là. 40% des chrétiens sont d'accord pour affirmer que Satan n'est pas un être vivant, n'est pas une personne, mais que c'est semblant un symbole du mal. Trouvez-vous que, à quelque part, on a besoin d'enseignement sur Satan et les démons? 40%, c'est énorme. Là, je ne sais pas dans quelle sorte de milieu chrétien a fait leur enquête, mais ils disaient, je lisais un petit peu les... Il disait qu'il avait fait ça dans 50 États, et c'était vraiment un échantillonnage assez... Mais 40%, ça veut dire qu'il y a quasiment un chrétien sur deux qui est d'impétate par rapport à la doctrine de Satan et des démons. C'est énorme. Alors, quelque part, ça nous montre que peut-être que c'est des choses qu'on se devrait de mieux connaître pour qu'on ne dise pas des pareilles bêtises si jamais quelqu'un nous dise, on voudrait faire une enquête, qu'on dise que Satan, c'est pas une personne, mais que c'est juste un symbole. À quelque part, si on dit qu'on est un symbole, c'est parce qu'à quelque part, il y a des connaissances qui ne sont pas tout à fait exactes dans notre esprit. Alors, on avait parlé que le premier point, c'était l'origine et la chute de Satan et des démons. À quelque part, Dieu a créé toute la terre, tout l'univers, il a créé les hommes, il a créé les anges, et il y a eu un moment que tous les anges étaient corrects. Comment on explique que, selon les Écritures, ce serait un tiers des anges du ciel aurait quelque part, à un moment donné, péché, tombé. Comment on explique ça? Quels sont les versets qui nous disent qu'on peut savoir où est l'origine de la chute de Satan? Alors, il y a comme deux principaux passages qu'on a intérêt à les retenir, ce ne sont pas difficiles à retenir. Ézéchiel 28, versets 11 à 15, et aussi Ésaïe 14, versets 12 à 15. Alors, Ézéchiel 28, Ésaïe 14, pas trop difficile à retenir. On a juste deux livres à retenir, puis dans le fond, deux chapitres. On sait que si on retient Ézéchiel 28, versets 11 à 15, puis si on retient Ésaïe 14, 12 à 15, on est capable d'expliquer à quelqu'un qui nous demande comment ça se fait qu'il y a des gens mauvais, comment ça se fait que Satan existe. Alors, si on va dans Ézéchiel chapitre 28, on va lire le passage du verset 11 et on va se rendre jusqu'au verset 19. Ézéchiel chapitre 28, versets 11 à 15. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur. L'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or, tes tambourins et tes flûtes était à ton service, préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. » Alors, le texte nous parle qu'il marchait devant Dieu. Il était vraiment très, très, très proche de Dieu. Et dans le verset 15, ça dit « Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. » Alors ici, il y a une chose importante qui est dit par rapport à Satan, c'est que c'est une créature. Lui, des fois, il se prétend Dieu, mais la Bible nous dit que c'est une créature. Première chose à retenir, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc, à quelque part, il y a eu du péché qui s'est installé dans sa vie. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Alors, ça nous explique comment il y a eu un ange qui était privilégié en beauté, en talent, on dit qu'il était comme un genre de musicien, il était brillant, rempli de pierres précieuses, d'une intelligence supérieure, très très grande intelligence, et à quelque part il a péché. À cause de la richesse, comme on dit, et à cause de sa sagesse, il se pensait plus fin, il pensait qu'il pouvait se comparer à Dieu et être aussi comme Dieu. Quand on va dans Ésaïe 14, on a un autre passage qui nous parle de ça. Cette fois, je vous donne le texte de la version Osterwald. Parce que dans la version Osterwald, on utilise un mot pour parler de l'astre brillant et on met en parenthèse Lucifer, porteur de lumière. Alors, c'est dit, verset 12, « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant? » Puis entre parenthèses, dans la version Osterwald, c'est marqué Lucifer. Puis quand on regarde dans un dictionnaire biblique, qu'est-ce que ça veut dire Lucifer? Ça veut dire porteur de lumière. Donc, la lumière représente son intelligence. Alors, astre brillant, fils de l'aurore, comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations? Tu disais en ton cœur, remarquez le nombre de fois que le mot « je » est dit là-dedans. On voit que son problème... ça a été un problème d'orgueil. C'est je. Il dit, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu. Les étoiles de Dieu, dans le contexte, on parle des anges. Il voulait monter son trône au-dessus de celui des autres. Alors il dit, j'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de l'Assemblée, aux régions lointaines de l'Aquilon. Je monterai sur les hauteurs des nues, et là, il termine par « je serai semblable au Très-Haut ». Il ne dit pas je veux être Dieu », il dit « je serai semblable ». Alors, il se met comme s'il serait sur un pied d'égalité avec l'Éternel. Alors, il dit « je serai semblable au Très-Haut », mais le verset 15, ça dit « mais tu es descendu dans le sépulcre, dans les profondeurs du tombeau ». Alors, le langage employé, je monterai au ciel, je lèverai mon trône, je serai semblable au Très-Haut, semble indiquer la révolte d'une créature angélique très puissante et très haut placée. Alors, si on regarde les textes vraiment attentivement, on pourrait dire que dans certains passages, il parle de roi terrestre. Mais faut faire une observation. L'observation est la suivante, il n'est pas inhabituel dans le discours prophétique hébraïque de passer de la description d'événements humains à la description d'événements célestes qui leur sont parallèles et que les événements terrestres représentent d'une manière limitée. S'il en est ainsi, alors le péché de Satan est décrit comme un péché d'orgueil et une tentative d'être égal à Dieu en statut et en autorité. Si tu dis que tu es semblable à Dieu, alors tu penses que tu es aussi brillant, aussi fort, aussi... Et on sait qu'étant une créature, il ne pouvait pas avoir aucun attribut comme Dieu. Parce que Dieu est omniscient, donc il sait tout. Satan sait peut-être beaucoup de choses, mais il n'est pas omniscient. Il n'est pas omniprésent. Il n'est pas... Et toutes les autres attributs, là, il y en a au moins 25. Alors, il n'arrivait pas à la cheville de Dieu, bien entendu. Alors, la parole de Dieu nous parle beaucoup de Satan et des démons. Juste vous donner une idée de l'ensemble des mentions de Satan et des démons dans l'ensemble des Écritures. Satan et les démons est mentionné dans 7 livres de l'Ancien Testament. Si vous voudriez faire une étude complète sur Satan et les démons, vous pourriez trouver la mention de Satan dans 7 livres. Pourriez-vous m'en nommer un ou deux?
Genèse.
Daniel, Genèse, Nodo.
Samuel?
Peut-être. En tout cas, c'est juste la mention qu'il y a 7 livres de l'Ancien Testament. Et si on va dans le Nouveau Testament, là on voit qu'il est beaucoup plus présent. Ça veut-tu dire qu'il était moins présent dans l'Ancien puis plus présent dans le Nouveau? Probablement pas, mais on parle de mention. Dans l'Ancien Testament, 7 livres, il est mentionné. Dans le Nouveau, 19 livres sur 27. Ça veut dire qu'il est presque dans tous les livres du Nouveau Testament. Et si on comptait, dans les Évangiles, le nombre de fois que Jésus parle de Satan et des démons, 15 fois. Beaucoup. Il parle 15 fois. Alors, juste un exemple. Luc, chapitre 10, verset 18, Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Alors, et on pourrait prendre tous les autres versets, ça ne donnerait rien des nommés. Là. Pas que ça ne donnerait rien, mais ça donnerait quelque chose, mais juste pour donner un exemple, que Jésus en a parlé de Satan et des démons au moins 15 fois. Maintenant, les démons, on parle de l'origine de Satan, comment c'est arrivé que il y a eu une révolte dans le ciel, il y a eu de l'orgueil et il a été précipité sur la terre. Les démons. Lorsque Dieu a créé le monde, il considéra tout ce qui avait été créé et trouva que tout cela était bon. Donc, à quelque part, au moment de la création, c'était bon et il y a eu quelque chose qui s'est passé entre les deux. Alors, cela signifie que même le monde angélique que Dieu avait créé ne comprenait pas d'anges mauvais ou de démons à ce moment-là. Mais plus tard, en Genèse 3, oui, Genèse 1, on parle de la création, Genèse 3, on parle de la chute. En Genèse 3, on observe que Satan, sous la forme d'un serpent, incite Ève à pécher. Genèse 3, versets 1 à 5, en passant, au début de septembre, quelque part, là, je ne sais pas quelle date exacte, mais ce ne sera pas trop long, on va commencer une étude systématique sur le livre de la Genèse. C'est un livre très important. Et on va... C'est comme un solage. Si tu comprends bien Genèse et que tu comprends, que tu acceptes les doctrines qui sont enseignées solidement, tu ne te laisseras pas entraîner dans toutes sortes de choses. Il y a des choses importantes qui sont enseignées dans Genèse. On va en faire l'étude systématique. On va probablement passer plus qu'un an, tous les dimanches, à part quelques exceptions. Alors, par conséquent, si à Genèse 1, le Seigneur dit que tout était parfait, puis à Genèse 3, on a l'intervention de Satan, c'est qu'entre les deux, il y a sûrement eu la chute du malin. Alors, il y a eu une rébellion. Alors, le Nouveau Testament nous parle de cela en deux endroits. Pierre nous dit, dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 4, « Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. » Il les a précipités dans l'abîme où ils sont gardés pour le jugement, enchaînés dans les ténèbres. Donc, à quelque part, ici, on apprend dans 2 Pierre que non seulement il y a eu la chute de Satan lui-même, mais il a entraîné d'autres anges avec lui qui ont chuté également. Et dans Jude 6, on apprend aussi que Dieu a gardé, enchaîné à perpétuité, dans les ténèbres pour le jugement du grand jour, les anges qui ont abandonné leur demeure au lieu de conserver leur rang. Alors, Satan a entraîné dans sa révolte et dans sa chute une partie des créatures célestes. Tout à l'heure, dans... Y a-t-il mention? Ah oui, dans le verset 9 de Apocalypse 12, il dit « Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Donc, à quelque part, en même temps que lui, il y a eu la chute des anges. Alors, parmi ces anges déchus-là, il y a une partie des anges mauvais qui sont gardés en prison, comme on l'a vu tout à l'heure dans 2 Pierre et dans Jude 6, et il y en a d'autres qui ont la liberté d'agir. Ça, faudrait aller encore des études un petit peu plus profondes pour comprendre les raisons de toutes ces choses-là. Alors, on le sait, les démons sont les agents de Satan. Donc, c'est comme si le général de l'armée du mal, c'est Satan, mais il y a une armée de démons qui travaillent pour lui et qui interviennent dans nos vies de façon constante. C'est bizarre parce que les Écritures nous avertissent qu'on est en guerre spirituelle. Pas qu'on le sait pas, là. On le sait, mais on dirait qu'on l'oublie. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies, qui sont créées, qui sont amenées par Satan qui veut nous tenter, ou nous éloigner de Dieu, ou nous refroidir, ou nous emmener à faire toutes sortes de péchés. Et on l'oublie ça. Et quand on l'oublie, c'est malheureux parce que le Seigneur nous donne toutes sortes d'outils et de moyens pour combattre efficacement le malin et les démons. Et si on ne le fait pas, bien, quelque part, on se prive de bénédiction. Alors, ils sont les agents de Satan. Et ils ont des caractéristiques. Ils sont impurs, parce que souvent dans les Écritures, on parle d'eux comme étant impurs. Ils sont aussi méchants. Des fois, on entend parler de choses qui se passent sur la terre, de personnes qui ont commis des gestes vraiment, là, on se dit, voyons donc, bien méchant vers ça. Bien, tous les esprits, tous les démons sont méchants. Alors, sont impurs, méchants, violents. Alors, souvent, on dit, quand on regarde les hommes sur la terre, qu'on regarde les hommes violents, en général, ça nous dégoûte. Les hommes violents sont trop... C'est énorme. Alors, sont méchants, violents. Et autre chose, sont séducteurs. Alors, la violence, c'est une façon de vouloir forcer quelque chose. Et la séduction, c'est plutôt l'approche douce, par le sourire, par le mensonge, par... Alors, les Écritures présentent les démons comme étant séducteurs. Beaucoup de passages pour ça. Matthieu 10, verset 1, Matthieu 12, verset 45, Marc 9, verset 20, 1 Timothée 4, 1. Il y aurait beaucoup d'autres passages. Quand on se met à étudier la doctrine des démons, la doctrine de Satan, on se rend compte que c'est mentionné à beaucoup d'endroits. On pourrait savoir, par une étude approfondie, beaucoup de choses sur l'ennemi. Moi, je pense que c'est notre devoir d'étudier ces choses-là, parce que dans n'importe quelle guerre, disons qu'on... Les États-Unis sont rentrés en guerre ou l'Allemagne est rentrée en guerre contre un pays. La principale qualité du général qui a à combattre une autre armée, c'est de connaître son ennemi. Plus il y a de renseignements sur son ennemi, plus il connaît les faiblesses de l'ennemi, plus il est capable de gérer son armée pour que ça produise des effets les plus efficaces possibles. Mais dans le domaine spirituel, c'est exactement la même chose. Combattre un ennemi que je ne connais pas, quand je ne connais pas ses tactiques, je ne connais pas ses moyens d'action, quelque part, je ne suis pas très efficace. Alors, c'est notre devoir, comme chrétien, d'apprendre à connaître l'ennemi et ses tactiques et ses moyens d'action. Et il y a une chose qui est épeurante, c'est que les Écritures nous disent qu'à la fin des temps, et beaucoup de personnes pensent qu'on est à la fin des temps, la Bible nous dit qu'il va y avoir une recrudescence de l'activité des démons. Qu'est-ce que ça veut dire, une recrudescence? Ça veut dire qu'ils vont être plus actifs que jamais. C'est comme s'ils seraient déchaînés dans l'activité. Plus on va approcher de la fin, plus ils vont travailler fort pour nous faire tomber. Si c'est vrai qu'on est dans les temps de la fin, moi je pense que c'est vrai. Ça veut dire qu'on est dans la guerre et on est dans une guerre intense. Même si on ne s'en rend pas compte, même si on ne la voit pas, le monde spirituel, on le sait que Dieu existe. On l'a déjà vu, on l'a jamais vu, mais on sait qu'il existe pareil. Satan, les démons, c'est exactement la même chose, pas à cause qu'on ne l'a jamais vu et qu'on les a jamais vus, les démons, ils n'existent pas. Alors, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 et 10, allons regarder ça. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 et 10. Là, il parle de l'apparition de l'Antichrist. Il dit, « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. » Voyez-vous, c'est puissant, ça, ces choses-là. Il est en train de dire qu'il va faire des choses qui vont être hors de l'ordinaire pour séduire les gens, pour les entraîner. Alors, un miracle, on est automatiquement de l'autre portée à dire, ben, c'est Dieu. Il va falloir faire très attention. C'est pas parce qu'il y a un miracle que c'est automatiquement Dieu qui le fait. Alors, ça dit que son apparition va se faire avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité. Ça veut dire que les activités des derniers temps vont être séductrices. Il va probablement avoir des fausses doctrines, il va avoir toutes sortes de choses que, dans le fond, on ne sera pas nécessairement porté à dire « Ah, oh, je rejette ça automatiquement. » La séduction, c'est qu'on se laisse embarquer tranquillement. Alors, c'est dangereux. Avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Voyez-vous le verset 11, « Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. » Alors, il est en train de dire que ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, à la fin des temps, ils vont être portés à se laisser séduire par toutes les activités démoniaques. Alors, c'est quand même bon qu'on le sache, ces choses-là. Et il y a d'autres versets. Mais dans le fond, la fin des anges déchus, on le sait, sont déjà perdus, sont déjà... C'est comme la guerre... est déjà gagné par le Christ. Le Seigneur les a déjà vaincus. Et on sait leur endroit où ils vont se ramasser. Mais eux sont tellement orgueilleux que même s'ils savent où ils vont se ramasser, ils continuent quand même à se battre contre Dieu. Alors, la fin des anges élus est d'être dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges dans Matthieu 25, 41. Alors, il y a un endroit que Dieu a préparé pour eux. Et ils s'en vont là, qu'ils veuillent pas. En attendant, c'est sûr qu'ils se débattent pour essayer de faire le plus de tort, le plus de mal possible sur la terre. On va regarder le deuxième point. Le deuxième point, c'était la personne. Donc, on a vu l'origine de la chute et comment ça s'est produit, que lui est tombé, puis comment il a entraîné le tiers du nombre des anges qui existent avec lui. Alors, Satan, on le sait, est le chef des démons. C'est comme si ce serait le général des démons. Dans Luc 11, versets 18 et 19, le Seigneur parle de Satan et de ses démons. Il dit, « Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Béelzébul? » Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Donc, on sait, sont unis et leur chef, c'est Satan. Satan, c'est un nom personnel qui est donné aux malins dans les Écritures. Il est mentionné, par exemple, dans Job, chapitre 1, verset 6. On vient de l'étudier. Job, où il est dit, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint au milieu d'eux. Le nom Satan est un mot hébreu qui signifie adversaire. Donc, il est notre ennemi. Tu sais, des fois, quand on est des êtres humains, puis on regarde un être humain, je parle avant qu'il soit régénéré, un ennemi, qu'est-ce qu'on y ferait pas? Et si nous, on est l'ennemi de quelqu'un, qu'est-ce que quelqu'un voudrait, achèterait pas de nous faire? Un ennemi, normalement, on l'haït, et tout ce qu'on pourrait faire pour lui amener du trouble, on lui amènerait. Un ennemi, c'est... Et quand l'être humain est régénéré, haït quelqu'un, puis il considère comme un ennemi, dès qu'il y a une chance, une jambette, un coup de poignard dans le dos, n'importe quoi, il va le faire. C'est sûr. Et la Bible nous dit que nous, Satan est notre ennemi, bien sûr. Il nous haït et il cherche tous les moyens pour nous faire tomber, pour qu'on amène du discrédit sur le nom de Dieu. Mais dans les Écritures, il y a plusieurs autres noms qui sont utilisés, des noms et des titres qui sont donnés à Satan. Si je vous demandais comment il y en a, vous me diriez combien. L'auteur, je me sers, lui, il me dit qu'il y en a 22. 22 noms ou des titres qui sont attribués à Satan, qui donnent un aspect ou un autre de sa personnalité, un peu comme quand on a vu en bas ce qui était là, les noms de Dieu. Alors, quand on parle de El Shaddai, on parle du tout suffisant. Quand on parle de... Et tous les noms de Dieu ont des significations et ça révèle une certaine partie de la personnalité de Dieu. Mais c'est la même chose avec Satan. Alors, chacun de ces titres ou de ces noms révèle un côté ou l'autre de sa personnalité. Alors, voyez-vous, dans Satan, le mot Satan dans les Écritures est utilisé 52 fois. Le mot diable, le diable. Alors, dans Matthieu, chapitre 4, verset 1, « Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Alors, on voit ici que le diable, un de ses aspects, c'est la tentation, le tentateur. Il a même essayé de tenter Jésus-Christ lui-même. Dans Éphésiens 2, 2, vous avez sûrement déjà lu le texte d'Éphésiens 2, 2, « Le prince de la puissance de l'air ». Ça dit « Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Donc, un autre titre qui lui est donné, c'est « Le prince de la puissance de l'air ». Donc, ça semble indiquer que les démons sont quelque part autour de nous, dans l'air. « Prince de la puissance de l'air ». Un autre titre de Satan... « Le Dieu de ce siècle », 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Et regardez bien ici qu'est-ce qu'il est en train de dire pour une des caractéristiques du Dieu de ce siècle. « Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. » Qu'est-ce que c'est en train de nous apprendre? C'est en train de nous apprendre que quand on essaye d'amener l'Évangile à quelqu'un, le Dieu de ce siècle va chercher à aveugler l'intelligence de la personne. Pour pas qu'il comprenne. Il va chercher à le distraire. Jette-moi ça, ce papier-là. Ah, oh, c'est une secte. Jette-moi ça. Il va y mettre toutes sortes d'idées à l'esprit pour que ça aveugle. Le Dieu de ce siècle, il va aveugler. Quand on veut annoncer la lumière à quelqu'un, lui, il veut le contraire. Il veut aveugler la personne pour pas qu'elle voie la lumière de l'Évangile. Un autre, alors on pourrait dire, celui qui a la puissance de la mort, dans Hébreux 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Alors ici, c'est en train de nous dire que Christ a anéanti celui qui avait la puissance de la mort. Qui a fait rentrer la mort dans la vie humaine, dans Genèse 3, par la chute de Ève et d'Adam? Toute la génération qui ont suivi depuis ce temps-là sont toutes sous la mort, physique, spirituelle et éternelle, à moins qu'ils ne reçoivent la grâce de Dieu. Celui qui avait la puissance de la mort, Christ l'a vaincu, comme ça dit dans le texte. Il a anéanti. Il a plus que vaincu, il l'a anéanti. Et une autre expression ou titre, le prince de ce monde. Jean 12, verset 31. Un prince, c'est quelqu'un qui règne. N'est-ce pas? S'il règne, ça dit qu'il règne sur ce monde. Donc, une partie de ce qui se passe sur la terre est régie par le malin, mais jamais, il ne règne pas à la perfection, autrement dit. Il y a toujours le Seigneur qui est au-dessus. Il y a Dieu qui souverainement contrôle absolument tout ce qui se passe, et le malin et ses anges ne peuvent absolument rien faire à nous, contre nous, sans que Dieu ait permis que ça arrive. Alors, il est le roi de la terre, si tu veux, mais sous Dieu, que Dieu dit « oui, tu peux faire ça, non, tu ne peux pas faire ça ». Autrement dit, il ne faut pas oublier, il est le prince de ce monde, mais au-dessus du prince, il y a un roi. Ça, c'est intéressant de s'en souvenir. Oui, il est puissant, mais il n'est pas aussi puissant que Dieu et il ne peut agir qu'en fonction des permissions que Dieu lui donne. Une autre expression, dans Éphésiens 6, 12, le prince des ténèbres. Donc, le prince, c'est encore un titre de puissance. Donc, quand c'est caché, les ténèbres, on le sait, c'est le noir. Vous remarquez que tout le mal qui se fait sur la terre, c'est toujours dans le noir, dans le sens qu'on cherche à cacher les choses. Regardez les criminels, tout ce qui se passe qui est corruption, on veut toujours cacher. J'écoutais une émission cette semaine sur la corruption en Chine. C'est épouvantable, j'en revenais pas. C'est tellement enraciné dans toute la culture, à partir du plus bas niveau jusqu'au plus haut niveau, c'est corrompu à l'os, comme on dit. C'est épouvantable. Et le journaliste nous montrait qu'il essayait de sortir un petit peu des faits. Et il y a des Chinois qui cherchent à faire sortir la vérité. Mais ce qu'ils sont prêts à faire, là, tuer, à envoyer de l'acide sulfurique dans la face d'une personne pour le faire taire, les ténèbres, ils veulent garder leur système dans le noir, que personne vienne se montrer le nez là-dedans. Alors, quand on dit qu'il est le prince des ténèbres, on sait que tout ce qui se fait de mal est toujours en secret. Ça dit dans Éphésiens 6, 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Autre expression qu'on ne serait pas, on pense pas qu'il nous viendrait, naturellement à l'esprit, c'est le Léviathan, dans Ésaïe 27, verset 1. Alors, c'est un mot qui est utilisé, qui fait référence à Satan aussi. « En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée, le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. » Bien entendu, je pense qu'ici, il parle dans un sens symbolique, c'est pas vraiment un monstre dans la mer, là, comme c'est vraiment le Léviathan, un symbole du malin. Et, bien entendu, il y a tout à l'heure ce qu'on a lu dans Ésaïe, 14, verset, dans la version Sterval, du moins, Ésaïe 14, 12, on mentionne un nom, Lucifer. Alors, ça dit, « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, Lucifer, fils de l'aurore, comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations? » Une autre expression, ou 22, c'est pas facile à retenir, hein, mais des fois, c'est bon juste de se faire mentionner pour qu'on sache que c'est des titres de Satan. Dans Apocalypse 12, verset 7, on a l'expression « le dragon ». On sait que dans l'imagerie populaire, un dragon, c'est une bête énorme avec beaucoup de puissance, beaucoup de force. Alors, il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et ce dragon et ses anges combattirent. Autre caractéristique ou nom, le séducteur, dans Apocalypse 20, verset 10. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Chose intéressante ici, c'est que je me souviens de l'imagerie qu'on nous donnait sur les démons, sur l'enfer quand on était jeune. C'était que nous, on serait tourmentés par les démons. Je ne sais pas si vous... Les plus vieux d'entre nous, probablement, ils doivent se souvenir de ça. Moi, je m'en souviens. Et le texte, est-ce qu'il dit que c'est nous... Est-ce que c'est les démons qui vont être tourmentés ou si c'est les démons qui vont nous tourmenter? Le texte dit, « Et les démons, ils seront tourmentés jour et nuit dans le siècle des siècles. » Alors, ce n'est pas les démons qui vont nous tourmenter. C'est eux qui vont être tourmentés jour et nuit. Alors, on est des fois, en étudiant les Écritures, il y a certains enseignements qu'on peut avoir reçus qui est faux. Et les Écritures, c'est là, comme ça le dit dans 2 Timothée, chapitre 3, 16, pour nous instruire, pour corriger. Ça vient corriger les fausses conceptions qu'on peut avoir. Autre nom, Apollyon. A-P-O-L-L-Y-O-N, ou Apollyon. Apocalypse, chapitre 9, verset 11. Et il parlait des sauterelles. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. On dit 22, mais si je mettrais Abaddon, ça fera 23. Parce qu'il parle de deux noms, un nom grec et un nom hébreu. Alors, il parle du malin et il donne un nom en grec et il donne un nom en hébreu. En hébreu, c'est Abaddon, puis en grec, c'est Apollyon. Et on en sait un autre quand on a déjà lu dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Matthieu. Dans Matthieu, chapitre 12, verset 24, « Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, « Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. » Alors, un autre nom qui est donné à Satan, Béelzébul. Il y en a beaucoup. Un autre, Bélial, dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 15. Quand le Seigneur nous dit de faire attention à nos associations, par exemple dans le mariage, un chrétien ne se devrait pas de se marier avec une inconvertie. Un chrétien ne devrait pas partir en affaires avec un inconverti. Parce qu'il nous dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quand tu appartiens à Dieu, tu n'appartiens plus au démon. Puis quand tu appartiens au démon, tu n'appartiens pas à Dieu. Puis tu mets les deux travailler ensemble, c'est sûr qu'il va y avoir des problèmes, des conflits. Alors c'est pour ça que le Seigneur veut qu'on fasse attention dans nos associations, pour ne pas s'associer soit dans le mariage ou soit en affaires avec un inconverti. Parce qu'il dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec un infidèle? Alors, il est en train de te montrer qu'un fidèle, ça ne vaut pas qu'un infidèle. Parce que si tu fais ça, automatiquement, tu risques des problèmes. Moi, j'ai vu dans ma vie des gens, un chrétien, qui a marié une non-chrétienne. Et dans certains cas, le Seigneur, par grâce, permet que l'inconverti, la femme ou l'homme, se convertisse et que ça fasse un couple chrétien. Mais ça, c'est l'exception. En général, si les gens font ça, c'est sûr qu'ils s'exposent à des problèmes majeurs. Je me souviens, quand j'étais à l'école biblique, il y avait une dame là, qui était missionnaire, qu'elle avait fait cette erreur-là de marier un homme qui n'était pas un chrétien. Et elle a eu des problèmes dans sa vie, le reste de sa vie. Quand tu dis, là, elle s'est mariée avec un inconverti. Et elle a eu des problèmes le reste de sa vie. Ça, c'est un cas que j'ai vu personnellement. C'était épouvantable. Et elle devait avoir... Le Seigneur, c'est sûr qu'elle est sauvée pareil, même si elle a fait ça. Mais la quantité de souffrance que cette affaire-là là, a dû amener dans sa vie, c'est épouvantable. Alors, le Seigneur l'a laissé vivre avec les conséquences de son péché. Comme il a laissé David vivre avec les conséquences de son péché. Il était chrétien encore, il a pardonné son péché, mais il a eu les conséquences au péché de David. Alors, c'est la même chose. Autre titre, celui-là, on le connaît presque tous, le malin. Matthieu 13, 38. Alors, il parle de la semence. Il parle ici que quand on fait de l'évangélisation, il dit, le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Alors, dans une église, le Seigneur dit que parfois, ça peut arriver qu'il y ait de l'ivraie parmi le blé. Et on se souvient du passage qui disait, les anges ont dit au Seigneur, « Veux-tu qu'on y aille arracher l'ivraie de ton église ou de ton champ? » Le Seigneur dit, « Non, non, laisse-les croître ensemble. À la fin des temps, je vais m'occuper de faire le vrai ménage. » Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne que le malin, une des tactiques qu'il utilise pour affaiblir l'Église, c'est d'amener des inconvertis dans l'Église. Parce qu'en amenant un inconverti dans l'Église qui se pense sauvé mais qui ne l'est pas, automatiquement, ça vient affaiblir l'Église parce que ces choses-là finissent par affaiblir l'Église. Autre titre qui lui est donné, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5, « Le tentateur ». Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous eussions travaillé en vain. Voyez-vous, il envoie quelqu'un pour vérifier si ça n'aura pas arrivé que le travail qu'il a fait, il ne l'a pas bien fait, puis que les gens qui pensent qu'ils sont sauvés ne seraient pas vraiment sauvés. Parce qu'il dit, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous eussions travaillé en vain. Autrement dit, j'ai fait ça pour rien? Est-ce que vous n'ayez rien compris de ce que je vous ai dit? Il envoya quelqu'un comme pour vérifier. Alors le tentateur, bien sûr, il dit, ne vous eût de peur, le tentateur ne vous eût tenté. Autre titre de Satan, l'accusateur des frères. Aimeriez-vous ça, entendre parler qu'il y a quelqu'un qui est toujours en train de déblatérer contre vous? Un être humain, disons. Que vous sauriez que quelqu'un que vous connaissez, qui connaît bien vos activités de tous les jours, qui passerait son temps à aller voir vos amis et qui dirait oh, « Tiens, Ginette, ou Benoît, hein, Raymond, Rénal, et on peut nommer tous les noms, et qui passerait son temps à dire des choses sur nous qui sont fausses, ou qui sont vrais, parce que les Écritures nous parlent du péché de médisance, du péché de calomnie. Donc, la médisance, c'est dire quelque chose de quelqu'un qui est vrai, mais c'est peut-être pas nécessaire que tu l'aies dit. C'est ça, la médisance. Tu peux dire des choses qui sont vraies, mais en les disant, tu détruis la réputation de quelqu'un, ou tu dis, ou tu amènes du discrédit sur son nom. Puis la calomnie, c'est pire parce que tu dis quelque chose de quelqu'un qui est faux. Mais le Seigneur considère les deux comme un péché, soit la médisance, soit la calomnie. Mais Satan, lui, il nous accuse constamment devant Dieu. Ça veut dire que quelqu'un au ciel qui passe son temps à nous observer dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, et qui va voir Dieu, puis... « Hein? T'as-tu vu un tel? As-tu vu un tel? As-tu vu ce qu'elle a fait? » Et là, il accuse. On le sait, quand on va en cours, on va dire « T'es accusé de vol. T'es accusé de ci, de ça, de meurtre. » Mais lui, il passe son temps à nous accuser. Donc, ça veut dire qu'il a un système d'information avec ses démons qui nous observe constamment. Il voit nos péchés. Et là, il se dépêche d'aller à Dieu. Il dit, « Ah, c'est ça, t'es chrétien. Regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'elle a fait. » À quelque part, c'est très désagréable de penser que quelqu'un peut avoir comme activité principale de toujours nous accuser comme ça. Parce que dans Apocalypse 12, verset 10, ça dit, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé. » Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ça veut dire qu'il n'arrête pas, c'est constant. Il nous observe, il regarde nos chutes, il regarde nos problèmes, nos difficultés, et il passe son temps à nous accuser devant Dieu. Mais une autre chose qui est intéressante, c'est de savoir que nous, on a un bon avocat. Donc, c'est Christ qui est notre avocat. Et qu'est-ce qu'il peut dire à Dieu? Il peut dire à Dieu, oui, c'est vrai, elle a fait ça, mais j'ai payé pour ce péché-là. Puis s'il en amène un autre, mais j'ai payé pour celui-là aussi. Il les a payés tous. Alors, quelque part, c'est intéressant de savoir qu'on a, oui, un accusateur, c'est désagréable de savoir que quelqu'un passe son temps à, comme en québécois, on dit « bitcher », passe son temps à nous « bitcher », mais il y a quelqu'un qui nous défend, il nous défend avec amour, avec sainteté, avec fidélité, et avec une perfection, toujours en rappelant à Dieu, « Oui, mais ce péché-là est payé pour. Oui, mais ce péché-là est payé pour. » Et ils ont tout payé. Alors, on a un avocat. Et un autre, ici, c'est un aspect du malin qui est très, très, très dangereux. L'ange de lumière. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Ça nous dit, « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Qu'est-ce que ce passage-là nous apprend? Ce passage-là nous apprend que Satan a des théologiens ou des savants qui laissent entrer dans l'Église et sont déguisés en ange de lumière. Donc, sont déguisés comme s'ils seraient des ministres de Dieu. Puis, dans le fond, leur but, c'est pas d'instruire le peuple, c'est de mêler le peuple. Et si on regardait l'ensemble de toutes les doctrines, les fausses doctrines qui se passent sur la terre, des fois, comme on disait tantôt, les activités sont là, ça arrive, mais on n'a pas toujours conscience que toutes ces choses-là, c'est le malin qui amène ça par en arrière. Il emmène ses ministres. Ça dit un ministre, un serviteur. Donc, il prend un homme et jusqu'à quel point la personne le fait consciemment ou non, ça, on ne peut pas le savoir. Je suis certain qu'il y en a qui le font consciemment dans le but d'emmener de l'erreur dans l'Église et de la répandre. Alors, quand il se déguise en ange de lumière, il est dangereux. Parce que souvent, les personnes ne peuvent pas toujours savoir que c'est un vrai pasteur. Ou Alors, quelque part, ça nous prouve une chose, qu'il faut toujours faire attention à ce que les personnes enseignent. Parce que si une personne se met à enseigner des choses fausses, vous devez de réagir. Mais pourquoi il y a tant de troubles aux États-Unis? Pourquoi il y a tant de sectes? Pourquoi il y a tant de problèmes? Parce que les gens, au lieu de suivre la parole et de suivre Dieu, ils suivent les hommes. Et quand tu suis un homme, l'homme avec toute sa capacité de tomber, de se tromper, qui est pécheur, il peut en séduire un méchant lot et les emmener avec lui. Et ça, Paul l'avait prévu, puis il avertissait les chrétiens. Sachez qu'il va y avoir des faux docteurs, il va y avoir des... Et c'est pas nouveau, là. C'est depuis le début que c'est comme ça, puis c'est encore comme ça aujourd'hui, là. Donc, un ange de lumière. Alors, des déguisements. Il se déguise aussi. C'est un ange du déguisement. Un menteur, dans Jean... Chapitre 8, verset 44. Même dans Jean 8, 44, il nous donne deux caractéristiques du malin. Menteur et meurtrier. Regardez n'importe quel milieu criminel. Puis quelles sont les deux choses que vous allez retrouver de façon constante? Ça va être exactement ces deux affaires-là. Menteur. Ces gens-là sont des menteurs. Ils mentent comme ils respirent. Et sont des meurtriers aussi. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, qui risquent de briser leur système, sont prêts à tuer pour garder leur système. Alors, ils sont des fils du malin. Ils ressemblent à leur père. Alors, Jean 8, 44. « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Donc, à quelque part, ceux qui pratiquent des choses que le malin, qui sont menteurs et qui sont meurtriers, bien sûr, sont des fils du malin. Alors, un menteur et un meurtrier. Et ensuite, dans Matthieu 13, 39, on en parle comme étant l'ennemi. L'ennemi. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Donc, on en parle comme l'ennemi. Et il y a un autre titre qui lui est donné, un lion rugissant. On l'a tous lu, passage dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Alors, on va arrêter là pour aujourd'hui et on fera la deuxième partie, pas dimanche prochain, parce que c'est Jean qui prêche, mais l'autre semaine après, on va terminer la deuxième partie. Alors, on va arrêter là-dessus.